Cours de philosophie du vivant par le Père Philippe à Saint-Jodard, le 17 octobre 89.
Dans le dernier cours, vous précisiez que la diversité provient de la matière. Comment expliquer la diversité au niveau spirituel, diversité des opérations vitales? Pourquoi le degré spirituel implique-t-il une diversité? C'est très vrai, il y a deux diversités. Les néoplatoniciens disaient que l'âme humaine est l'horizon du monde visible et invisible. Alors je parlais la dernière fois en premier lieu de la diversité visible, la complexité du corps. Celle-là, on la touche. Je n'ai pas encore parlé de l'âme, puisque nous partons d'abord des choses visibles. Mais on verra qu'il y a une complexité spirituelle aussi. Deux complexités. Complexité du corps, c'est là-dessus que toutes les grandes théories de l'évolution se basent. Vous voyez, le père Teilhard, il insiste beaucoup sur cette complexité. Voyez, tous les biologistes, ils insistent sur cette complexité. Complexité qui aboutit à celle du cerveau. Et c'est vrai qu'elle est la plus grande de toutes. Et c'est visible, celle-là. Et c'est pour ça que je parle de là. Cette complexité-là que nous devons voir en premier lieu, il y en a une autre. Puisque psychologiquement, il n'y a rien de plus complexe que l'homme. C'est vrai. Et spirituellement aussi, on verra. Donc je suis tout à fait d'accord, double complexité. Et j'insiste d'abord sur celle du corps, parce que c'est la plus visible. Et on verra que toute complexité repose sur la potentialité. C'est pour ça que celle du corps repose sur la potentialité radicale de la matière. Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer que la volonté est premièrement une capacité d'aimer? On le verra. Je ne vais pas reprendre ça parce que j'ai simplement affirmé ça. Parce que j'ai quand même l'expérience que je suis capable d'aimer. Et que cette expérience est au-dessus de l'expérience que j'ai de l'amour passionnel. Je peux discerner assez vite les degrés, la diversité donc, et la complexité dans l'ordre de l'amour. Mais on le verra mieux plus tard. Donc, nous étions partis la dernière fois, si vous vous souvenez bien, du caractère tout à fait particulier de la philosophie du vivant. Je crois que c'est très important pour nous. Peut-être là, vous voyez, pour tous ceux qui connaissent un peu Aristote, voir que la complexité, voir que la philosophie du vivant va à l'intérieur d'une philosophie de la nature découvrir quelque chose d'original, d'unique. Pour nous, étant donné l'importance des études biologiques d'aujourd'hui, étant donné l'importance des études psychologiques aujourd'hui, nous devons être particulièrement attentifs à cette philosophie du vivant qui va de fait dépasser le point de vue biologique et le point de vue psychologique. On va essayer de comprendre comment. Alors, j'exprimais cela en disant que nous avons une expérience toute particulière de notre propre vie. Nous pouvons saisir de l'intérieur, au moins notre vie, biologique, nous la saisissons aussi de l'intérieur, mais nous nous heurtons devant une opacité terrible qui vient de la matière. C'est vrai, notre vie biologique n'est pas très lumineuse. Il suffit que vous ayez mal à l'estomac, mal au foie, mal aux intestins, pour vous apercevoir que ce n'est pas très lumineux. C'est vrai, ça. C'est pas commode de dire et de détecter ce qu'est ce mal. Oui, toujours l'expérience négative qui a un primat au plan psychologique très grand. C'est au moment de la séparation que vous comprenez mieux tous les liens d'unité dans l'amour. C'est au moment de la souffrance et de la tristesse que vous comprenez mieux ce que c'est que la joie, et ainsi de suite. Très très curieuse. Ça, il faut être sensible à ça, pour comprendre comment, de fait, la philosophie contemporaine mettra ce primat sur la négation. Avec tort ou raison, hein, ça, on verra ça plus tard, en critique. Nous voyons donc la complexité de nos expériences vitales. La journée. Durant toute la journée. Pas la peine d'énumérer, je crois. Vous pouvez faire ça facilement. Un petit examen de votre vie d'homme, de votre vie humaine, durant toute la journée. Et ça se termine le soir, dans un désir de vous reposer. Ce qui est encore une expérience vitale, c'est sûr. Et vous ne savez pas du tout si l'animal a la même chose. L'animal, il ne le dit pas, puis il se met à dormir. Regardez un chien, c'est très, très curieux. Il dort comme ça, plusieurs fois par jour. Tout simplement quand il est fatigué. Comment se fait-il que vous, vous ne dormez pas plusieurs fois par jour? Sauf... les sermons, certains cours, on dort. Quand on assiste à des conférences à certaines heures particulières, il y a un cycle dans nos envies de dormir. C'est curieux, il y a un cycle. Alors on lutte, c'est encore une expérience de vie, de lutter contre le sommeil, de ne pas se laisser aller. À un moment donné, ça faisait partie de la mode de Jean-Jacques, qui faisait que dans les familles, on laissait les enfants s'endormir. Je n'ai pas vu ça, mais certaines personnes me l'ont dit. Et on ne disait pas aux enfants, va t'endormir, va te coucher. Non, 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 non. On attendait qu'ils roulent sur la table pour ne pas contrarier la nature. Parce qu'autrement, on contrariait la nature. Et à ce moment-là, on les ramassait et on les conduisait dans leur chambre. Mais il faut respecter les lois de la nature. Heureusement qu'on est sorti un peu de ça. Mais on est tombé de Jean-Jacques à Freud. Alors c'est autre chose. Mais c'est vrai, Caribancille là. Alors, Freud, c'est autre chose. Ne contrariez jamais le psychisme. Donc, laissez. Ne commandez pas trop brutalement. Avec douceur. Veux-tu, bon petit, faire ceci? Est-ce que tu serais suffisamment gentil de fermer la porte quand tu sors? Ou des choses comme ça, vous voyez? Puis jamais contrarier. C'est curieux, hein? Il y a des liens entre Jean-Jacques et Freud. Des liens souterrains. On passe du point de vue visible, corporel, naturel, et puis du point de vue psychique. Cette complexité que nous voyons, c'est toujours nous. même la grande complexité de dormir et de se réveiller. Le matin, quand vous vous réveillez, sauf quand vous vous réveillez de façon trop brutale, vous mettez un certain temps à être vous-même. Quand vous vous réveillez, vous ne vous posez pas la question « Est-ce que c'est moi qui me suis endormi la veille ?» Vous avez regardé votre montre, entre deux. Quand vous commencez à vous poser la question, ça devient grave. Et quand vous ne vous posez pas la question, oui, c'est normal, je me suis endormi hier, puis je me réveille, c'est bien moi. Puis on va recommencer la journée. Elle sera à peu près semblable de celle d'hier. Bien, elle sera très différente, suivant que c'est une journée de désert, une journée où on pourra faire tout à fait autre chose. Autrement, ça recommence. Et cependant, il y a une unité dans la diversité. Il dirait, ce recommencement montre quelle unité. Parce qu'on ne pourrait pas recommencer la même journée qu'hier s'il n'y avait pas l'unité. Hein. Ce serait impossible. Donc il y a une unité souterraine qui fait que toute cette diversité est une. Alors vous vous posez la question, d'où vient cette unité? D'où vient cette unité? Et vous pouvez aussi vous poser la question, pourquoi cette unité? Dans la mesure où vous avez vous-même unifié votre vie, volontairement. Vous êtes donné un programme de vie qui respecte la diversité. C'est vrai. Règlement de vie dans lequel on est aujourd'hui respecte une diversité et en même temps unifie avec des temps de repos, des temps de prière. Alors pourquoi cette unité? Comment ce qui peut unifier votre vie, d'où ça vient et en vue de quoi? Je crois que c'est les deux pôles d'unité de ma vie que je peux toucher, expérimenter. Est-ce que j'ai une vie plus unifiée au noviciat qu'avant d'entrer au noviciat? Constatation, ça. Je crois que tous, on doit dire qu'on a une vie plus unifiée. Pourquoi? Parce que justement, la finalité, en vue de quoi, est plus nette. J'ai simplifié des quantités de choses. Ou plus exactement, on m'a demandé de les simplifier. Et j'ai accepté, librement, au début, au bout d'un certain temps, peut-être que les oignons d'Égypte reviendront avec une ferveur particulière. Je dirais quand même, j'ai abandonné ça. Vous savez, celui qui, au bout d'un mois, disait non, je pars. Et j'ai demandé pourquoi. Ah, il m'a dit, le monde n'est pas assez présent. Il m'a dit quoi? Oui, l'information à l'égard du monde. C'est un journaliste. Elle dit, ah oui, ça c'est vrai. Ça c'est difficile. D'avoir une information comme vous l'aviez avant. Il lisait 10 journaux tous les matins. Alors évidemment, ça lui manquait. Le monde n'est pas assez présent. Je dis oui, parce qu'on se sépare du monde. C'est pour ça qu'il n'est pas assez présent. On a quand même une intention de se séparer du monde. Si on avait l'intention de rester sur la place publique, on ne serait pas ici. Le neuvième implique une séparation. Donc c'est délibéré, c'est voulu. En vue de. Donc la finalité est beaucoup plus marquée. Et d'où vient cette unité? D'où vient cette. Comment se fait cette unité par la finalité? Et on se pose la question, c'est très important. Si vous ne vous posez pas la question, vous resterez à décrire la diversité de votre vie. Vous essayerez d'écrire comment cette diversité peut arriver à une certaine unité et comment il y a certains obstacles. Et il y a de gros obstacles. Il y a des moments où vous rêvez. Des nostalgies. Des oignons d'Égypte. Des nostalgies terribles. Qui fait que l'unité par le sommet, c'est-à-dire par la finalité, tend à disparaître. Et quelquefois, ces obstacles sont tellement gros qu'on dit c'est impossible. C'est pas fait pour moi. Cette taille délibérée, voulue, elle n'est pas faite pour moi. Elle est trop forte. On voit très bien comment on peut se poser ces problèmes-là. Tout ça, j'en ai l'expérience, interne et externe. C'est par là que se pose pour moi la question que toutes les traditions religieuses se sont posées. Et je ne dois pas oublier ces traditions religieuses. L'homme, en lui, une âme et un corps. Alors la petite topique historique qui serait très intéressante à faire, et qu'on doit faire soi-même. Je crois que parmi vous, il y en a un séminaire là-dessus. Et c'est très bien. Topic historique sur la question de la dualité de l'âme et du corps. Je ne peux pas ne pas tenir compte de cela. C'est un fait massif. Et qui aujourd'hui prend une importance capitale. C'est pour ça qu'on vous donne un séminaire là-dessus. L'importance capitale. Je me souviens avoir trouvé sur les bancs d'une église, dans le Valais, à Sion, des papiers. Comme j'entrais quand il n'y avait personne dans l'église, je pouvais ramasser ces papiers et les regarder attentivement. Et j'ai reconnu alors des choses intéressante à noter, en disant ceci: aujourd'hui, on ne peut plus parler de la dualité de l'âme et du corps. La dualité. On ne peut plus parler de la distinction de l'âme et du corps. C'est périmé. Cette distinction grecque n'a plus de sens aujourd'hui. On doit regarder l'unité de la personne. Connaissez ce genre de chanson? Je dis bien ce genre de chanson parce que c'est pas quelque chose de très très précis. Déjà, le professeur de Lausanne, qui est mort maintenant, professeur de philosophie de Lausanne, m'avait invité une fois, on était de grands amis, des protestants. Son épouse était parthienne, donc protestant au carré, parce que vraiment très 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 consciente, puisque quand j'allais prendre mon repas chez lui, lui disait mon père et elle disait monsieur. Ça dénotait quelque chose au point de vue du langage. Et ça continuait tout le repas, c'était donc voulu. Je ne sais pas si entre eux, ils avaient discuté la question est revenue après, puisque j'étais chez eux en clergyman, et je posais la question, dois-je faire le cours à l'université avec mon habit dominicain ou en clergyman? Alors celui qui m'appelait mon père, tu ressens aucune espèce d'importance. Tout le monde sait que vous êtes dominicain, ici. Et l'autre disait, ah non, non, non. Parce que ce n'est pas philosophique. On vous invite pour une conférence philosophique, donc restez en clergyman. C'est ce que j'ai fait pour finir, parce qu'il y avait une opposition entre les deux. J'ai pris l'aspect le plus œcuménique. Mais c'était intéressant de voir l'opposition entre les deux. Et après, il m'a invité, du reste, dit, je vous invite pas à l'université pour ça, mais je vous invite à mon séminaire. Et mon séminaire aura lieu chez moi. Parce que tous mes étudiants sont sous l'influence de Merleau-Ponty et refusent la distinction de l'âme et du corps. Vous, vous l'acceptez? Je dis oui, je l'accepte. Pourquoi? Et en phase 2, ce serait peut-être intéressant de montrer pourquoi vous l'acceptez. Donc, je me trouvais devant un problème que je connais, que je sais, mais devant ce que j'ai accepté du reste, devant une vingtaine d'étudiants, garçons et filles, tous unanimement refusaient la distinction de l'âme et du corps. Et c'était Merleau-Ponty, leur maître. Et le professeur de philo à Lausanne, lui-même, était sous l'influence de Merleau-Ponty. Descartes passait au bleu et Merleau-Ponty passait devant. Parce que pour Descartes, il y a une distinction de l'âme et du corps. C'est sûr. La substance pensante et la substance corporelle, quantitative. Donc, c'était net. Merleau-Ponty passait devant Descartes. Et lui, comme il était très de formation cartésienne, hésitait. C'était net. Mais l'influence des étudiants. Alors, on a commencé un séminaire à 8h du soir, ça s'est terminé à 1h du matin. C'était extrêmement intéressant. On m'a demandé d'exposer. J'ai dit, et puis alors, j'ai essayé rapidement, en m'appuyant sur des... Et alors, une que j'ai su après, qui était un petit peu celle qui menait la bande, tout de suite posait une question, mais je suis complètement stupide. La distinction de l'âme et du corps. Alors je lui ai posé du tac au tac, comme on peut le faire dans une discussion où l'intelligence est un peu éveillée. Mademoiselle, est-ce que pour vous c'est une différence de dormir ou de faire de la philosophie? Elle n'a pas osé répondre. Alors j'ai taquiné un peu là-dessus. Donc c'est la même chose pour vous, dormir ou faire de la philosophie? Alors vous dormez de façon très intelligente ou vous faites de la philosophie en dormant? Parce que c'est la même chose. Elle n'a pas osé. Elle est très très jolie. Elle n'a pas osé dire qu'il y avait une distinction pour elle entre dormir et faire de la philosophie. À 11h30 du soir est arrivée l'épouse du professeur avec le thé et gâteau. Tout le monde a pris ça parce qu'on avait quand même déjà assez lourd. Alors à ce moment-là, la discussion s'est arrêtée. Il y avait l'œcuménisme du thé. Alors j'ai dit, je vais regarder de nouveau. Et vous avez remarqué que la discussion philosophique avait diminué depuis qu'on prenait du thé et des petits gâteaux très bons. Y a-t-il, est-ce que c'est la même chose? Boire un très bon thé, manger des petits gâteaux et faire de la philosophie. Elle n'a pas osé répondre. Alors à ce moment-là, j'ai pris la grosse batterie. Et je dis, voyez, si vous acceptiez la distinction entre dormir et faire de la philosophie, vous seriez obligé, à la suite de Descartes, à la suite de certains philosophes, de dire, mais oui, c'est vrai. Il y a en moi deux sources, ou une source, et autre chose, l'âme et le corps. Évidemment, si vous n'acceptez pas de distinguer dormir et faire de la philosophie, je comprends. Vous mettez tout dans le même sac. Mais alors, c'est un peu ennuyeux. Bien, oui, c'est important pour nous de voir que sous l'influence de Merleau-Ponty, qui a pénétré dans les milieux chrétiens, parce que maintenant je sais la source, je vous savais bien avant, mais a pénétré dans les milieux chrétiens. On ne peut plus accepter la distinction d'âme et du corps. Pourquoi ? Parce que tout est basé sur la conscience. Alors on dit l'inconscient et le conscient. Et la conscience, c'est l'homme. Et la conscience, c'est la personne humaine. S'il n'y a pas conscience, il n'y a pas de personne humaine. Ça va très loin, ça, vous savez. Même par rapport à l'avortement. Alors on dit, dans certains milieux, que je nomme pas, la distinction d'âme et du corps est une distinction grecque. Et derrière ça, on attaque saint Thomas. Eh bien, il faut avoir le courage de remonter un peu plus loin et de dire que la distinction d'âme et du corps n'est pas une distinction qui naît de la philosophie. C'est une distinction qui a été portée aux philosophes par les traditions religieuses. Les grandes traditions religieuses, celles de l'Inde, distinguent l'âme et le corps. Et Platon, qui aimait la philosophie de l'Inde, Platon qui a voyagé, Platon s'est posé la question, est-ce que cette distinction de l'âme et du corps est-elle philosophique ? Ou repose-t-elle tout simplement sur un mythe religieux. Ça prouvait que Platon était intelligent. Parce que le philosophe se trouve devant des traditions religieuses. Et n'a pas le droit de considérer que ces traditions religieuses ne sont rien. Il doit se poser la question, ces traditions religieuses sont-elles des mythes imaginatifs ? Ou sont-elles quelque chose qui nous montre une réalité cachée. Alors on invente un mythe. Platon a répondu, Aristote a continué. C'est pour ça qu'on peut dire que les deux grandes philosophies de l'âme, c'est Platon et Aristote. Et le néoplatonisme. Et que saint Thomas, à la suite de tous les pères de l'Église, tous les pères de l'Église ont accepté la distinction âme et corps. Tous. Et saint Thomas l'a reprise au père de l'Église. Et cette distinction est restée dans la tradition chrétienne jusqu'au milieu du siècle. Donc on a affaire à la tradition chrétienne la plus vénérable. C'est important de comprendre ça. Et que cette distinction a été refusée à cause d'une philosophie moderne. La fémologie. On part de la conscience. Et on reste dans la description de la conscience. Le mot l'indique. Le phénomène intérieur. Et le logos de ce phénomène. Phénoménologie. C'est le logos du phénomène. Du phénomène, non pas extérieur, mais intérieur. Et au nom de cette philosophie, on a rejeté tout. Mais très rapidement, en disant tout simplement, c'est une tradition, c'est la philosophie grecque, ce qui est très faux. Breyer, qui est un très bon historien de la philosophie grecque, déjà peut-être un peu ancien pour nous, mais ça reste très bon ce qu'il dit sur la philosophie grecque. Breyer, quand il aborde le stoïcisme, donc le stoïcisme qui vient après Aristote, dit textuellement, les stoïciens sont revenus à la tradition philosophique grecque en rejetant la distinction âme et corps. Parce que la distinction âme et corps ne fait pas partie de la tradition philosophique grecque. J'ajoute ça. c'est l'introduction dans la philosophie grecque des traditions religieuses de l'Inde. C'est quand même intéressant de voir la conjonction des traditions de l'Inde s'introduisant dans la philosophie grecque. C'est quand même un moment très important, ça. Vous savez, quand l'Inde se met en... Plus exactement, quand la Grèce se met à embrasser l'Inde. C'est important d'assister à ça. Et de voir qu'à partir de là, la distinction âme et corps s'introduit en philosophie. Et que les stoïciens, venant après, ont rejeté cette distinction pour revenir aux premières traditions pré-socratiques. Pré-socratiques. En disant qu'il n'y a qu'une seule réalité, les réalités corporelles. Parce que les stoïciens n'analysent plus et ne regardent que le comment de l'existence humaine. Comment l'homme existe-t-il? On ne se pose plus la question d'où ça vient. On ne se pose plus la question en vue de quoi. On regarde le comment. Et si je regarde le comment, je ne découvre jamais l'âme distincte du corps. Donc, tous ceux qui ne recherchent que le comment, Auguste Comte l'a dit, l'aspect positiviste, tous ceux qui ne recherchent que le comment n'arriveront jamais à la distinction de l'âme et du corps. Parce que vous n'avez jamais vu l'âme humaine se promener toute seule, comme une grande personne. Jamais. Ce que j'ai toujours vu, c'est le corps qui se meut. Une automobile. Qui se meut. Qui se meut elle-même. Qui s'arrête. Qui s'assied. C'est ça que j'ai vu. J'ai jamais vu autre chose que ce qui est visible. L'âme est invisible. Vous êtes peut-être rêvé à l'âme, possible, si vous êtes très religieux. Quand vous aurez rêvé à l'âme qui se sépare du corps, ça prouve que l'aspect religieux a très pénétré en vous et que vous êtes proche de l'Inde religieuse. Bon, ça c'est très important pour nous de nous rappeler ça. Et le séminaire que vous faites là-dessus doit vous faire comprendre comment le philosophe a introduit dans sa philosophie cette distinction de tradition religieuse, l'âme et le corps. C'est important. Le mot âme n'est pas un mot d'invention philosophique. Le mot âme est un mot d'invention religieuse. Et c'est comme le mot Dieu. Il faut respecter dans notre philosophie les mots qui ne viennent pas de la philosophie et qui viennent de traditions religieuses. C'est très très important ça, par honnêteté, hein, par honnêteté philosophique. Ce que tous appellent Dieu, comme dit saint Thomas, ce que toutes les traditions religieuses appellent Dieu, ce que toutes les traditions religieuses appellent l'âme. Je crois que toutes les traditions religieuses acceptent la distinction d'âme et du corps. Alors on va m'objecter, grosse objection, mais la Bible n'accepte pas la distinction d'âme et du corps. Ah, ah, c'est très curieux. La Bible, quand on parle de la création de l'âme et de l'homme et de la femme, on dit que Dieu a façonné le corps de l'homme et lui insuffla une haleine de vie. Et ça, c'est les vieilles traditions religieuses, assumées par la Bible, assumées par l'Écriture. Dieu insuffla une haleine de vie, et il fut un vivant. C'est dit merveilleusement, les deux, le corps, et puis le souffle. C'est vrai, le mot âme n'y est pas, c'est le mot souffle. Et puis, le vivant, c'est les deux. très vrai, quand on regarde la tradition biblique, le mot âme n'apparaît pas beaucoup. C'est le mot souffle de vie. Cependant, dans la période dite, la période de l'influence hellénistique, vous voyez le mot âme, psyché, apparaître en grec. Et le mot âme est dans l'évangile de Jean. Évidemment, on le traduit vie. C'est sûr. Vous cachez l'âme. Mais le mot psyché n'a jamais été traduit vie. Psyché, c'est l'âme. Comme on reste aux traductions, on dit l'âme n'est pas présente. J'avais fait dans le temps un séminaire là-dessus avec notre cher père Dreyfus pour se poser loyalement la question: y a-t-il une opposition entre une position philosophique qui distingue l'âme et le corps et une position de théologie biblique qui regarde ce qui nous est révélé? Et on avait abouti à dire qu'il n'y a aucune opposition, mais il y a deux langages différents. Il y a le langage de la révélation qui est toujours concret, qui sous un mode symbolique. Représenter l'âme d'une manière symbolique par un souffle, c'est très beau. Le souffle de vie, c'est un langage symbolique. Et parler de la distinction de l'âme et du corps dans une période plus avancée, c'est normal. La Bible n'analyse que très peu. Elle décrit. Et c'est pour ça qu'elle a un langage symbolique. Donc, c'est une manière de parler. Tandis que le philosophe analyse. C'est une autre manière de parler et de penser. Donc, tout simplement, comprenons qu'il y a diverses manières de parler de l'homme, de le décrire, ou d'essayer de comprendre ce qu'il est. Une manière philosophique, une manière plus poétique, plus spirituelle, plus poète, plus religieuse. Alors on décrit. Donc ça, c'est très important, vous voyez, de se faire à soi-même, parce que c'est un des grands problèmes d'aujourd'hui. Et ça a d'immenses conséquences. Si on ne veut plus parler de l'âme, au point de vue catéchétique, je crois que c'est très dangereux de ne plus parler que de la personne. Je crois que c'est, il y a là quelque chose qu'on abandonne. Je me souviens, il n'y a pas longtemps, on m'avait invité dans un groupe de jeunes théologiens à Paris pour leur parler de la distinction de l'âme et du corps. Alors, ils ont écouté avec beaucoup d'attention. Il m'a simplement dit: mon père, nous sommes tout à fait d'accord avec vous, mais il faut reconnaître que l'âme n'est plus sur le marché philosophique. Alors j'ai dit: oui, c'est bien évident, depuis Husserl, ce n'est plus, depuis Merleau-Ponty, ce n'est plus. Mais est-ce que c'est la vérité ou pas? C'est la question. Oui, il ne faut pas ramener le philosophe au commerçant. Est-ce que c'est sur le marché? Je comprends très bien qu'on fasse ce raisonnement par rapport à des souliers, par rapport à des costumes, même par rapport à l'alimentation, mais par rapport à la recherche de la vérité. C'est le dernier argument, ça. Et ce qu'il y a de beau, vous voyez, quand on dit ça, on voit quelqu'un, c'est intéressant, quelqu'un comme Jean Bernard, écrire un livre, et l'âme, dit Brigitte. Donc ça revient sur le commerce. Je crois que les ecclésiastiques n'écrivent n'écriront plus sur l'âme et les biologistes s'interrogeront, l'âme existe-t-elle? Oui. Parce qu'on est obligé de parler sur l'âme. C'est une question de vérité. Donc, vous voyez, topic aujourd'hui, hein, on doit se poser la question. Comment se poser la question? Comment connaître si l'âme existe ou n'existe pas? Si c'est vrai de parler de l'âme ou de ne pas parler de l'âme? On a deux connaissances sur l'âme, au plan philosophique. Une première connaissance affective, expérimentale, interne. On peut aimer son âme. Expérimenter qu'il y a en nous une âme, une expérience, qu'on ne fait plus beaucoup aujourd'hui, parce que beaucoup n'aiment plus beaucoup leur âme. L'âme, vous voyez, c'est comme une belette, elle n'apparaît qu'à certains moments, et elle a très peur, elle a très peur. Alors il faut se situer bien pour la voir apparaître à certains moments, autrement on ne la voit pas. C'est très vrai. Que dans le monde d'aujourd'hui, dans un monde d'agitation, dans un monde fébrile, dans un monde matérialiste, dans un monde positiviste, dans un monde où l'économie joue un rôle capital, l'âme n'apparaît plus. Elle s'est retirée du marché. Mais si je reprends un aspect d'intériorité, l'âme réapparaît. Si je suis le conseil de Rilke, je prends exprès un poète, quand tu veux garder ton inspiration, retire-toi dans ta chambre. Et là, il dit presque la parole de Jésus, dans le secret. Réfléchis, médite. Voyez, la ligne du poète, l'inspiration, d'où ça vient? Quelqu'un qui aime, quand on aime profondément, retire-toi dans le silence et comprends ce qu'est ce jaillissement de l'amour. Pourquoi tant de divorces? C'est parce que justement, on ne comprend plus l'intériorité de l'amour. Et on ne vit que sur l'extérieur. On est dispersé. Et si on est dispersé, il n'y a plus d'intériorité. Il faut reprendre la distinction de l'intériorité et de l'extériorité.